L'évasion de la goélette par Jack London. Mais ils n'admettront aucune excuse. Nous avons franchi la limite, cela suffit. S'ils nous prennent, ils nous envoient en Sibérie dans les mines de sel. Quant à l'oncle Sam, il n'en saura rien. Aucune nouvelle n'en parviendra aux États. La Marie Thomas, diront les journaux, la Marie Thomas s'est perdue corps et bien. Probablement dans un typhon au large du Japon. Tout le monde le croira. En route pour la Sibérie et les mines de sel. Vous serez mort pour le monde, pour vos parents et vos amis. Dussiez-vous vivre encore 50 ans? Voilà en quels termes John Lewis, plus communément connu sous le surnom de l'avocat marin, résuma la situation. Il y eut un vilain moment au poste d'équipage de la Marie Thomas. À peine la bordée d'en bas avait-elle commencé à discuter sur ce contretemps, que la bordée du pont descendit se joindre à elle. Comme il ne faisait pas un souffle de vent, les hommes étaient inoccupés, à l'exception du timonier, qui restait à son poste pour ne pas manquer à la discipline. Bob Russell, le mousse, s'était lui aussi glissé à l'avant pour écouter. Oui, c'était un fichu quart d'heure, en jugé par les visages consternés des matelots. Au cours des 3 derniers mois, la goélette Marie Thomas avait poursuivi les troupeaux de phoques le long des côtes du Japon et plus au nord, vers la mort de Bering. Arrivés dans la partie asiatique de l'océan, ils avaient dû cesser la chasse ou plutôt arrêter leur course, car plus loin, les croiseurs russes patrouillaient dans la zone réservée où les phoques pouvaient se reproduire en paix. 8 jours auparavant, la goélette s'était laissée surprendre par une brume épaisse, accompagnée d'un calme plat. Depuis lors, le brouillard ne s'était pas levé et le vent s'était réduit à une simple brise. Ce contretemps ne présentait aucune gravité, les chasseurs de phoques n'étant jamais pressés tant qu'ils se trouvent à portée de leur gibier. Par malheur, les courants dans cette région se dirigeaient fortement vers le nord. Si bien qu'en dérivant, la Marie Thomas avait franchi involontairement la limite et d'heure en heure, bon gré mal gré, s'enfonçait toujours plus loin dans la zone dangereuse sur laquelle l'ours russe monte la garde. Impossible de mesurer la distance parcourue dans cette zone interdite. Depuis une semaine, le soleil et les étoiles demeurant invisibles, le capitaine ne pouvait faire aucune observation qui lui permît de déterminer la position du bateau. À tout instant, un croiseur pouvait survenir et emmener l'équipage en Sibérie. Les marins de la Marie Thomas ne connaissaient que trop le sort de certains de leurs camarades surpris à braconner, et cette préoccupation suffisait à leur embrunir le visage. « Mes amis, déclara un timonier allemand, c'est une sale affaire. Juste comme nous avons fait de bonnes brises et toutes régulières, quelque chose va de travers. Les Russes nous brennent, confisquent nos baux et notre bateau, et nous s'enfouons en Sibérie avec les anarchistes. Oui, c'est vraiment une sale affaire. »
C'est vraiment écœurant, renchérit l'avocat. 1500 pots dans le sel, toutes gagnées légitimement, une bonne part revenant à chacun de nous, et si nous sommes pris, nous perdons tout. Passe encore si nous avions braconné, mais c'est du travail honnête, dans les eaux libres.
Puisqu'on n'a rien fait de mal, ils ne peuvent nous punir, gémit Bob, le mousse.
Quand les anciens parlent, un morveux de ton espèce doit se taire, protesta de sa couchette un matelot anglais.
« Ça va, Jack, repartit l'avocat, c'est son droit, il risque de perdre sa paye, comme n'importe lequel d'entre nous. »
« Je ne donnerai pas 3 pence de ma paye, » renifla Jack.
Une fois licencié et payé, il avait projeté de rentrer dans sa famille à Chelsea, et il enrageait à la pensée de se voir frustré non seulement de son gain, mais aussi de sa liberté.
« Comment le saurait-il ? » continua l'avocat, en réponse à la question de Bob. « Il nous trouve dans la zone réservée. Peuvent-ils savoir si nous y sommes venus volontairement ou non? Nous avons 1500 pots dans la cale. Les avons-nous prises dans les eaux libres ou en zone défendue? Ne vois-tu pas, Bob, que les apparences sont contre nous? Si tu surprends dans ton verger un bonhomme les poches pleines de pommes semblables à celles qui poussent sur tes arbres, le croiras-tu s'il te jure que le vent l'a poussé jusque-là, mais que ces pommes ne proviennent pas de chez toi? Qu'en penseras-tu, dit? Présentée sous cet aspect, la situation parut claire à Bob et il hocha la tête d'un air découragé.
Mieux vaut mourir que d'aller en Sibérie, dit un des rameurs. Ils vous emmènent dans les mines de sel et vous font crever à la tâche. Vous ne voyez plus la lumière du jour. On m'a raconté l'histoire d'un pauvre bougre enchaîné à son compagnon. Celui-ci mourut, mais les deux hommes restèrent attachés ensemble.
S'il vous envoie aux mines de mercure, vous attrapez la salivation. Je préfère la pendaison à ce supplice-là.
« Qu'est-ce que c'est, la salivation ?» demanda Jack, se redressant brusquement sur sa couchette.
« Eh bien, le mercure s'introduit dans ton sang, du moins je pense qu'il agit ainsi. Puis tes gencives enflent comme si tu avais le scorbut. Pire même,
et tes dents se déchaussent. Ensuite, de grands ulcères se forment et tu péris dans des souffrances horribles. Au mine de mercure, l'homme le plus solide ne fait pas de vieux os.
« Sale affaire !» répéta tristement l'Allemand dans le silence qui s'ensuivit.
« Sale affaire ! Vivement Yokohama, hein ? Qu'est-ce qui se passe ?»
Le bateau venait de donner de la bande. Le pont s'était incliné. Un bidon se mit à rouler avec un bruit de ferraille. De la mâture, on entendit claquer les toiles et grincer les ralingues de la trinquette. Et la voix du second est là par l'écoutille.
« Tout le monde en haut, apparaît les voiles !»
Jamais ordre ne fut exécuté avec un pareil entrain. Le calme avait cessé. Enfin, le vent soufflait et allait les emporter vers le sud, vers le salut. Poussant une clameur sauvage, tous s'élancèrent sur le pont. Avec une hâte folle, ils parèrent huniers, clinfoques, voiles d'été. Pendant ce temps, le brouillard se dissipait et bientôt reparut la voûte céleste parsemée d'étoiles familières. Quand tout fut prêt, la Mary Thomas présenta bravement le flanc et, virant au vent, s'élança vers le sud.
« Feu de vapeur à bâbord avant !»
cria tout à coup l'homme de vigie de son poste au gaillard avant. Le capitaine envoya Bob chercher ses jumelles de nuit et tous les hommes vinrent s'accouder sur la lisse pour regarder le bateau suspect aux formes encore imprécises. Dans ces parages peu fréquentés, il y avait bien des chances pour que ce fût un patrouilleur russe. Le capitaine l'observait à travers ses jumelles quand un jet de flamme jaillit au flanc du bâtiment étranger, suivi d'une détonation. Le pire se confirmait. Le patrouilleur tirait dans la superstructure de la Mary Thomas pour la forcer à mettre en panne.
« La barre dessus toute !»
cria au pilote le capitaine, la mort dans l'âme. Puis, à l'équipage,
« Bordez le foc et la trinquette, descendez le clin foc, larguez le petit hunier, amenez la grande voile !»
Face au vent, la Mary Thomas perdit sa vitesse et se mit à encenser gravement dans les longues vagues qui roulaient de l'ouest. Le croiseur se rapprocha, mit un canot à la mer. Les matelots regardaient, dans un silence consterné, la blanche silhouette descendue sur l'eau et les rameurs s'y installer. On entendait le grincement des porte-manteaux et les ordres des officiers. Enfin, le canot bondit sous l'impulsion des avirons. Le vent avait fraîchi et déjà la mer devenait trop agitée pour permettre au frêle esquif d'aborder la goélette. Mais un officier et deux marins parvinrent à saisir au bol les filins qu'on leur lançait et se hissèrent à bord. Le canot s'écarta par précaution sans s'éloigner, sous la direction de la jeune enseigne qui, assis à l'arrière, tenait la barre. L'officier, que son uniforme désignait comme lieutenant en second de la marine russe, descendit avec le capitaine pour examiner les papiers de la Mary Thomas. Au bout de quelques minutes, il remontait. Ses marins enlevaient les écoutilles et, munis d'une lanterne, ils descendaient dans la cale pour vérifier son contenu. Une belle cargaison s'offrit à sa vue, 1500 peaux fraîches, toutes les prises de la saison. Vu les circonstances, il ne pouvait en tirer qu'une conclusion. « Je suis navré, » dit-il au capitaine en mauvais anglais, « mais mon devoir me commande, au nom du tsar, de saisir votre bateau, comme braconnier trouvé avec des peaux fraîches dans la zone réservée. Ainsi que vous le savez sans doute, vous êtes passible de confiscation et d'emprisonnement. » Le capitaine haussa les épaules avec une apparente indifférence et tourna le dos. Les hommes forts parviennent d'ordinaire à réprimer toute manifestation de leurs sentiments. Cependant, sous le coup d'un malheur immérité, ils sont parfois bien près des larmes. À cet instant, le capitaine de la Mary Thomas évoquait avec une netteté singulière sa petite maison de Californie, sa femme et ses deux gamins blonds. Dans sa gorge, une étrange sensation d'étouffement lui fit craindre d'éclater en sanglots s'il essayait de prononcer une parole. Mais il songea à son devoir envers les hommes de l'équipage. Pas de défaillance en leur présence. Il fallait demeurer impassible comme une forteresse pour les soutenir dans le malheur. Il savait la situation sans espoir et s'en était déjà expliqué avec le lieutenant en second. Ainsi que l'avait dit l'avocat, toutes les apparences étaient contre eux. Il gagna donc l'arrière et commença d'arpenter le pont du bateau dont il n'était déjà plus le maître. L'officier russe prit provisoirement sa place. Il fit monter à bord d'autres de ses hommes qui carguèrent toute la voilure et la ferlèrent de côté. Pendant ce temps, le canot s'en fut prendre aux vapeurs une solide haussière qu'on amarra à l'avant de la goélette. Les matelots, consternés, formaient un groupe et observaient tous ces préparatifs. C'eût été folie de tenter la moindre résistance avec les canons d'un navire de guerre à un jet de pierre. Ils avaient pourtant refusé d'y prêter leur aide et se bornaient à garder un silence lugubre. Sa tâche accomplie, le lieutenant fit redescendre tous ses hommes, sauf quatre, dans le canot, et l'enseigne, un gamin de 16 ans, mais qui paraissait singulièrement viril et sérieux, grâce à son uniforme et à son épée,
monta à bord prendre le commandement du bateau capturé. Au moment où le lieutenant se préparait à partir, son regard tomba par hasard sur Bob. Sans un mot, il le saisit par le bras et le fit basculer par-dessus la lisse dans le canot qui attendait en bas. Puis, après un geste d'adieu de la main, il le suivit. Il était bien naturel que Bob fût effrayé devant un événement aussi imprévu. Toutes les histoires redoutables qu'il avait entendues sur le compte des Russes lui revenaient avec l'esprit avec une vigueur accrue. Être fait prisonnier par eux constituait déjà un triste sort. Mais se voir enlevé, loin de ses camarades, quelle triste aventure! « Bob, lui cria le capitaine, quand le canot déborda de la mairie Thomas, « dis bien la vérité !»« Oui, oui, capitaine » fit-il d'un air crâne. Soutenu par un certain orgueil de race, il rougit de paraître intimidé devant ses ennemis inconnus, ces ours féroces de Russes. « Et Zoboli !» ajouta le timonier allemand de sa voix rude qui retentissait sur les flots comme une trompe de brume. Bob agita la main en signe d'adieu, et ses camarades massés près de la lisse lui répondirent par une acclamation. Il se casa là en du canot, dont il se mit à observer le lieutenant. Après tout, il n'avait pas l'air si terrible, conclut le mousse, et il ressemblait aux autres hommes. Les marins eux-mêmes ne différaient pas sensiblement de ceux des autres bateaux de guerre rencontrés en cours de route. Pourtant, quand ses pieds se posèrent sur le pont d'acier du croiseur, il lui sembla qu'il franchissait le seuil d'une prison. Pendant quelques minutes, personne ne s'occupa de lui. Les marins hissèrent le canot sur ses daviers. Puis, des nuages de fumée jaillirent des cheminées et se mirent en route pour la Sibérie. Du moins, Bob le pensa ainsi. Il vit la Marie Thomas virer brusquement et s'aligner sous l'effort du câble, puis ses feux de position, rouges et verts, commencèrent à monter et à descendre tandis qu'elle suivait en remorque. Les yeux de Bob s'humectèrent à ce pénible spectacle, mais juste à cet instant précis, le lieutenant va le chercher pour le conduire au commandant. Alors il se redressa et serra fermement les lèvres, comme si sa situation n'avait rien d'extraordinaire et qu'il fût habitué à partir pour la Sibérie chaque jour de la semaine. La cabine où se tenait le grand chef lui fait l'effet d'un palais comparé aux humbles agencements de la mairie Thomas, et le commandant, couvert de galons d'or et plein de dignité, lui parut un majestueux personnage n'ayant rien de commun avec le simple mortel qui menait la goélette à la recherche du troupeau de phoques. Il comprit aussitôt pourquoi on l'avait amené à bord du croiseur. Mais durant le long interrogatoire qui suivit, il ne raconta que la stricte vérité. La vérité était inoffensive. Seul un mensonge risquait de nuire à sa cause. D'ailleurs, ils ne savaient pas grand-chose. Ils avaient chassé, loin vers le sud, dans les eaux libres, puis, surpris par le calme plat et le brouillard à proximité de la limite, ils l'avaient franchi, entraîné à la dérive. Pas une fois, depuis une semaine qu'ils étaient partis en dérive dans les parages réservés, ils n'avaient mis une barque à l'eau ou pris un seul phoque, répéta-t-il à plusieurs reprises. Mais le commandant préféra considérer toutes ces dénégations comme un tissu de mensonges et affecta un ton brutal en vue d'effrayer le gamin. Puis il alterna entre la menace et la douceur, mais ne réussit pas davantage à faire varier Bob dans ses déclarations. Il finit par lui ordonner de sortir. Par suite de quelques négligences, personne ne se trouva chargé de surveiller le mousse et il put errer à son aise sur le pont. De temps à autre, les matelots, au passage, le regardaient d'un œil curieux, mais on le laissait absolument tranquille. Vu sa petite taille, il ne pouvait guère attirer l'attention. En outre, la nuit était obscure et la bordée du pont était très occupée par son service. D'un pas hésitant, il s'aventura sur le bateau inconnu et atteignit l'arrière, d'où il pouvait voir les feux de côté de la Mary Thomas qui suivaient docilement. Il les observa un long moment et enfin s'étendit, dans l'obscurité, près de l'endroit du bordage où passait le câble qui retenait la goélette captive. Un officier vint se rendre compte si le filin ne s'échauffait pas sous la tension, mais il n'aperçut pas Bob, blotti dans l'ombre. Cet acte, en tout cas, suggéra au mousse une idée dont dépendait la vie et la liberté de 22 hommes et qui pouvait épargner un chagrin accablant à plus d'une famille, jusqu'alors heureuse, à des milliers de lieues de là. D'abord, réfléchit-il, ces braves marins, innocents de tout crime, allaient se voir condamnés sans pitié à la captivité en Sibérie, à une mort vivante, ainsi qu'il avait entendu dire et comme il le croyait. D'autre part, lui-même se trouvait prisonnier sans le moindre espoir d'évasion. N'existait-il pas un moyen de délivrer les 22 pêcheurs? Leur seule entrave était un câble de 4 pouces. De leur côté, ils n'oseraient pas le trancher, car sûrement les Russes avaient posté des sentinelles à côté d'eux pour les surveiller. Mais de son bout, ah, de son bout, il en allait autrement. Bob ne raisonna pas davantage.
il rampa jusqu'au câble, ouvrit son couteau et se mit à la besogne. La lame ne coupait guère, et il sciait lentement les fils l'un après l'autre. À chaque effort lui apparaissait de plus en plus terrible la perspective de l'exil en Sibérie qu'il lui faudrait endurer tout seul. Un tel destin partagé avec ses camarades était déjà redoutable, mais l'affronter seul lui apparaissait odieux. De surcroît, l'acte même qu'il était en train d'accomplir ne manquerait pas d'attirer sur lui une aggravation de peine. Au milieu de ses mornes pensées, il entendit des pas se rapprocher et il se glissa en hâte dans un coin obscur. Un officier s'arrêta à l'endroit que le mousse venait de quitter. Il fit le geste de se baisser pour vérifier le câble, mais, se ravisant, il se redressa. Pendant quelques minutes, il considéra les feux de la goélette, puis retourna vers l'avant. C'était le moment ou jamais. Bob reprit sa place et poursuivit sa tâche. Deux taurons cédèrent, puis trois. Le dernier tenait encore, mais sa tension était si forte qu'il se brisa d'un seul coup. Plouf ! Le câble libéré frappa l'eau de la mer. Bob attendit sans bouger, le cœur palpitant, l'oreille aux aguets. Personne de l'équipage n'avait rien remarqué. Les lumières rouges et vertes de la Mary Thomas s'obscurcissaient de plus en plus. Un cri d'appel très faible parvint aux oreilles de Bob, qui fut le seul à le percevoir. La fumée continua de jaillir des cheminées du croiseur, et ses hélices fonctionnèrent comme auparavant. Que se passait-il sur la Mary Thomas? Bob se posait toutes sortes de questions. Un fait lui paraissait certain. Ses camarades, abandonnant leur passivité, se rendraient maîtres de l'enseigne et des quatre marins russes. Au bout d'un instant, il aperçut une brève lueur, et, écoutant avec attention, discerna la faible détonation d'un revolver. Puis, au bonheur, les feux disparurent brusquement. La Mary Thomas était reconquise. À ce moment, il vit un officier se diriger de son côté. Bob, sans se faire voir, se glissa vers l'avant où il se cacha dans un canot. Il n'était que temps. On avait donné l'alarme. Des voix sonores lançaient des ordres. Le croiseur changea sa direction. Un projecteur électrique balaya les flots de ses rayons blancs, ici, là, partout. Mais dans la zone lumineuse, la goélette n'apparut point. Bob s'endormit bientôt et ne se réveilla qu'à l'aube grise. Les machines poursuivaient leur rythme monotone et le bruit en clapotement lui apprirent que les marins procédaient au lavage du pont. D'un coup d'œil rapide, il se rendit compte que le navire était seul sur la vaste étendue liquide. La Mary Thomas avait réussi à s'échapper. Lorsqu'il leva la tête, les marins le saluèrent d'un énorme éclat de rire. Même l'officier qui ordonna de le faire descendre et de l'enfermer ne put dissimuler dans ses yeux une lueur de gaieté. Durant les quelques jours d'emprisonnement qui suivirent, Bob pensa souvent qu'on ne lui tenait pas trop rigueur de son crime. Il ne se trompait guère. Enfoui au plus profond de son cœur, tout homme garde une certaine noblesse innée, qui le contraint à admirer un acte de courage même de la part d'un ennemi. Les Russes ne différaient en rien des autres hommes. À la vérité, il s'était laissé duper par un gamin. Mais il ne pouvait pas lui en vouloir et se trouvait fort embarrassé de sa personne. Il ne leur convenait point d'emmener ce gosse pour représenter tout ce qui leur restait de la goélette disparue. 15 jours plus tard, un cuirassé des États-Unis sortant du port russe Vladivostok fut arrêté par les signaux d'un croiseur russe. Un canot se détacha de ce dernier, franchit la distance qui séparait les deux bateaux, et bientôt un jeune garçon sautait sur le pont du navire américain. Au bout d'une semaine, on les débarqua à Hakodate, et après un échange de télégrammes, on lui paya son voyage par chemin de fer jusqu'à Yokohama. De la gare, par les étranges rues japonaises, il se hâta vers le port. Là, il loua un sampan et demanda au batelier de le conduire à un bateau dont le gréement familier lui avait immédiatement frappé l'œil. Les voiles en étaient déployées et appareillées pour regagner les États-Unis. Comme le mousse s'en rapprochait, un groupe de matelots sauta sur l'avant, les barres du guindeau s'abaissèrent et s'élevèrent pendant que l'ancre s'arrachait du fond boueux. « Un bateau Yankee descend la rivière !» braillait la voix de l'avocat qui menait la chanson du cabestan. « Tirez, mes rudes gars, tirez !» répondaient les autres, tandis que leur corps se dressait et se baissait suivant le rythme de la chanson. Bob Russell régla le batelier et se hissa sur le tillac. Du coup, l'ancre fut oubliée. Une énorme acclamation retentit, et avant qu'il eût pu reprendre son souffle, Bob, juché sur les épaules du capitaine, entouré de l'équipage, s'efforçait de répondre à 20 questions à la seconde. Le lendemain, une goélette mit en panne devant un village de pêcheurs. Il débarqua 4 marins et un tout jeune enseigne, puis reprit la mer. Ces hommes ne parlaient pas l'anglais, mais comme ils ne manquaient pas d'argent, ils ne tardaient point à faire route sur Yokohama. Depuis ce jour,
Les pêcheurs du village japonais n'ont jamais entendu parler d'eux, mais leur apparition demeure un mystère dont on discute encore. Comme le gouvernement russe n'a jamais fait allusion à l'incident, celui des États-Unis ignore encore, officiellement du moins, en quelles circonstances certains de ses concitoyens ont enlevé 5 sujets du tsar. Même les nations possèdent parfois leurs secrets. Ainsi s'achève l'évasion de la goélette par Jack London.